qui fait la différence. Nous avons des amis qui aiment prier, qui réclament la prière. L'apôtre Paul, qu'on va voir ce matin, nous laisse un modèle de quoi prier. La question a été posée à Jésus, comment prier ? Et on a dans Matthieu chapitre 6 cette prière. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les disciples posaient la question à Jésus sur la prière, au chapitre 6 de Matthieu, verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Le centre de la prière, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est lui qui doit être vu, c'est son plan qui doit être mis en place. Et puis, deux versets plus loin, au verset 7, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Jésus donne deux avertissements sur la prière. Mais ma réflexion, c'est de savoir si notre prière est une prière intentionnelle, une prière qui exprime ce que je pense et ce que je souhaite pour autre. Une prière stratégique pour que l'Église évangélique Vigneux-sur-Seine puisse avoir l'impact qu'elle doit avoir. Et là, si on veut avoir ce genre de prière, mes amis, alors ça ne va pas être la prière événementielle. Vous savez que la majorité du temps, on prie pour nos frères et sœurs quand ils ont un problème, quand ils ont besoin de quelque chose. Mais c'est intéressant que Paul, dans la Thessaloniciens 5, il dit prier sans cesse. Quand est-ce qu'on s'arrête de prier pour quelqu'un ? Finalement, il n'a plus de besoin. Mais on va voir dans Éphésiens qu'il y a un autre type de prière. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à rentrer dans ce type de prière. À prier de manière à ce que notre ville change. À ce que notre pays soit transformé. Éphésiens chapitre 1, Paul dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité ou de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son amour qui réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles à venir, mais encore dans les siècles présents, pardon, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà un texte, hein. Paul a exposé, on en a parlé il y a quelques semaines, toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Vous rappelez le message, le plan de Dieu ? Dieu nous a révélé son plan. Et Paul s'adresse aux païens, aux gens qui ne font pas partie du plan de Dieu, d'après les juifs. Et il leur dit, vous avez toutes ces richesses cachées. Et maintenant, il fait une prière pour ces Éphésiens. Il dit maintenant, chaque Éphésien, chaque Vigneusien, chaque Évrien, chaque Plesséien, en vertu de ces richesses que Dieu a mis de côté pour vous, j'aimerais prier pour vous. Et je me demande, et je me pose la question, est-ce que nous prions dans ce sens-là ? Est-ce que nous prions pour chaque frère, pour chaque soeur que Dieu nous a donné, avec l'intention qu'il puisse prendre ses bénédictions? Pas simplement matérielles, frère, pas seulement événementielles, mais ces bénédictions spirituelles que Dieu a de côté pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu vous a déjà comblé de bénédictions, je peux prier pour vous avec confiance, dit Paul. En fait, Paul prie que les bénédictions des versets 3 à 14, hein, c'est le chapitre d'avant, soient en réalité encore plus concrètes, plus fortes dans la vie des Éphésiens. Est-ce que nous souhaitons que chacun d'entre nous nous grandissions? Alors pourquoi on ne prie pas? Pourquoi on prie simplement pour nos incidents, pour nos besoins? Mais on a besoin de grandir, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de mieux comprendre. J'ai besoin de réaliser ce que Dieu fait dans ma vie, ce qu'il veut faire dans votre vie. Mais pour cela, j'ai besoin de vous connaître. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. Pas simplement votre situation de vie, mais de pouvoir mettre un nom sur la personne que je vois, pour qui je prie. Paul, il est en prison là. Il est en prison. Il écrit, il dit, je prie pour vous. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il a du temps, lui, il est en prison. Moi, j'ai pas le temps, je travaille. C'est incroyable combien de temps on peut passer, n'est-ce pas, à rien faire. Et combien de temps on pourrait utiliser pour Dieu? Utiliser pour la croissance de l'Église. Utiliser pour la croissance des frères et sœurs. Utiliser pour mettre à disposition, Seigneur, change ce pays. Et vous savez que quand on dit, Seigneur, change mon frère, il y a toujours un doigt qui regarde le frère, et il y a trois doigts qui me regardent. Et Seigneur, si tu veux changer quelqu'un, change d'abord moi. Ce que Paul commence à faire, il prie de trois façons. Au verset 15, il a un acte de reconnaissance. Paul exprime sa gratitude à Dieu pour les frères et sœurs. Prendre le temps, Seigneur, je te remercie que dans l'église, voilà, tu as mis Kevin. Je te remercie que ça soit mon frère. Je te remercie parce que il y a la sœur Simone. Oh, tu sais, elle est un peu casse-pied. Non, pardon. Change-la, Seigneur. C'est pas ça qu'on dit. Il vient pas sur le caractère. Il prie. Il reconnaît les frères et sœurs que Dieu lui a donnés parce que Dieu a payé le même prix pour eux qu'il a payé pour lui. Dieu a tant aimé le monde, hein, et quand on change le monde par le nom de la personne qu'il a donné son fils unique. Au verset 16, il dit, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Ça changerait peut-être notre mentalité, peut-être, si au lieu de se plaindre des frères et sœurs, au lieu de penser le mauvais œil, la mauvaise parole, la mauvaise attitude que le frère ou la sœur il a eu, de dire, Seigneur, je te loue. Je te loue que tu as mis cette personne sur la route. Et on peut dire en sous-titre, je ne la comprends pas bien. Je partirai sûrement pas en vacances avec elle. Mais en tout cas, je te loue qu'elle est là. Parce que si tu l'as mis là, c'est pour une raison. Vous voyez que avoir un moment de reconnaissance. Dans la prière de Matthieu 6, hein, on loue Dieu pour ce qu'il est. Mais si on prenait le temps, dans nos temps de prière, et personnel et en groupe, déjà de remercier pour les personnes qui sont là, pour les frères et sœurs qu'on voit le dimanche matin, pour ceux qui composent l'Église et dont Jésus est la tête et le chef. Paul est reconnaissant pour deux évidences de l'œuvre de Dieu chez ses lecteurs. Leur foi et leur amour. Leur foi c'était leur amour, leur foi au Seigneur Jésus. Et leur amour pour tous les membres. On a besoin de grandir les uns les autres, n'est-ce pas? On a besoin de grandir en foi, n'est-ce pas? On a besoin de grandir en amour. Pourquoi sommes-nous connus ou reconnus? Pour des hommes fidèles, des femmes fidèles? Pour des hommes et des femmes de foi? Ou au contraire, des gens qui ont une petite foi? Vous savez, c'est ce que Jésus a dit à ses propres disciples, hein? Gens de peu de foi. Si on veut prier avec intensité les uns pour les autres, frères et sœurs, prions que nous soyons connus comme des hommes de foi et d'amour, et des femmes. Parce que quand je regarde ces choses, la première question que je peux me poser, est-ce que je remercie Dieu pour mes frères et sœurs? Ou est-ce que je dis, mais Seigneur, ils ne pourraient pas aller ailleurs? Plus précisément, est-ce que je suis porté à remercier Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres? Et pas seulement dans la mienne. Et pas seulement dans la mienne. Est-ce que je suis porté à remercier Dieu pour la foi et l'amour qu'il donne à mes frères? Ce serait sans doute une bonne attitude à prendre, n'est-ce pas? Que Paul nous laisse. Est-ce que je connais suffisamment les uns et les autres pour savoir si ce sont des hommes de foi et d'amour? Dans sa deuxième partie, dans les versets 17-19, Paul alors va rentrer dans le domaine de l'intercession. Et regardez bien ce qu'il demande, si on peut afficher 17-19. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse, révélation. Pourquoi? Pour que vous le connaissiez. Vous savez, on veut avoir des révélations. Il y en a, ils espèrent qu'on leur révèle les 6 numéros du loto. Seigneur, donne-moi les numéros, tu vois, ce que je pourrais faire à l'église avec. Enfin, j'en garderai un petit peu, hein, quand même. Mais là, il dit quoi? Pour que vous le connaissiez, qu'il illumine votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Waouh ! Il ouvre un grand domaine, là. Il ne prie pas simplement que nous soyons bénis, que nous soyons riches, que nous ayons du travail, une voiture, de quoi nous vêtir. Il rentre dans le domaine, il dit, je te demande que tu donnes par ton esprit sagesse, révélation pour connaître Dieu. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et je me pose la question de savoir si on connaît bien notre Dieu. Mais là, la prière, c'est qu'il te connaisse. Paul a déjà dit qu'aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 13, on l'a vu la dernière fois, ils avaient été marqués du sceau de l'Esprit. Ils avaient la garantie. Ils ont déjà reçu l'Esprit. Ici, il prie que ce même Esprit leur transmette sagesse. C'est pas facile, la sagesse. Et la révélation. Mais la révélation pour le comprendre, pour dévoiler son plan. Et c'est tout ce qu'il leur a dit juste avant. On a du mal à savoir ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Pour la vie de nos enfants? Quel travail? Quelle école? Quelle location? On aimerait bien tous, hein, que Dieu nous envoie une lettre en disant voilà, hein. Mais Dieu nous fait parcourir le chemin, il nous fait découvrir. Et il met en place son plan. Mais l'avantage, le bénéfice que nous avons tous chrétiens, c'est de pouvoir prier les uns pour les autres pour que nous connaissions ce plan et pour que nous rentrions ensemble dans le plan. Pas juste quelques-uns, pas une sélection de personnes. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 1 et au verset 8 à 9, il est dit: selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Dieu, ça reste un grand mystère. Et des fois, notre vie, ça reste un grand mystère. Mais ce qui est extraordinaire, Paul est en train de leur dire que Dieu leur a donné l'esprit pour qu'ils découvrent cette sagesse. Le livre des Proverbes nous dit que si on veut découvrir la sagesse de Dieu, il faut d'abord commencer par écouter. Et il est même dit que le sage écoute, que celui qui est intelligent écoute. La sagesse de Dieu, ça s'apprend, n'est-ce pas? Et ça prend du temps. Dieu a donné pleine sagesse, pleine intelligence, en leur faisant connaître le secret. Mais un secret qu'il veut que nous communiquions. Vous savez, ce n'est pas un secret que Dieu nous a donné de garder dans une boîte, dans un livre. Vous savez, un jour, il y avait un chercheur de chez Michelin. C'était un ami à moi, c'était quelqu'un qui travaillait dans les hautes sphères de chez Michelin. Et tous les jours, il passait à la même porte avec une sacoche. Et pendant 10 jours qu'il était là, il était en stage, pendant 10 jours qu'il était là, il était au cœur de Michelin, là, où il y avait tous les secrets. Et puis, tous les secrets là, voilà, Michelin. Et personne ne l'arrêtait jamais. Et puis, le dernier jour, je devais l'amener à l'aéroport. Il passe la porte et là, oh, il y a un garde qui l'attrape, un agent de sécurité. Oh là, oh là, oh là, monsieur. Vous avez quoi dans votre valise? Et là, il le regarde, il dit: tous les secrets à Michelin. Et là, le monsieur: oh non, c'est pas bien. Montrez-moi. Et quand il a sorti ses papiers, le monsieur a compris. Mais Dieu, il n'a pas quelque chose de caché où il nous dit: c'est moi qui ai la recette. Mes amis, le secret du mystère de Dieu, le secret de l'Église, il est là. Il l'a mis à notre disposition. Et ce que Dieu veut, c'est pas juste que notre sœur Lourdes, que un tel, que notre frère Jacques, que notre frère Patrick le sache. Mais il l'a mis pour que chacun d'entre nous, nous puissions connaître. Vous vous rendez compte? Et si je peux prier parce que des frères et sœurs ont du mal, si je peux prier pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui sont autour de moi, et prier pour ceux qui vont bien, alors, mes amis, il va se passer des choses. Notre prière va devenir efficace. Mais elle est intentionnelle, elle n'est pas juste événementielle. Bien sûr, il faut continuer de prier pour les besoins. Mais si on prenait ce temps de prier les uns pour les autres, nominalement, on peut prier de manière globale: Seigneur, bénis ton Église. C'est facile, hein? Toi, Seigneur, j'ai prié pour toi ce matin. Bon? Oui, oui, demandez que Dieu bénisse l'Église. Merci. C'est une bonne prière, c'est un bon début. Mais si je peux dire: voilà, Seigneur, je te prie pour un tel, que vraiment tu te révèles dans sa vie. Il va se passer des choses, mais ce n'est pas vous qui serez le centre. Ça va être l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et là, il va se passer des choses incroyables. Ou d'un seul coup, le frère ou la sœur, il va dire: oh, moi j'arrive à faire ça, je fais ça. Et vous n'allez pas vous pointer et dire: ah ouais, c'est moi, tu sais, l'autre jour, 10h10, j'ai pris du temps pour toi. Paul a un fardeau. Voilà, il veut que chaque chrétien grandisse. Il veut que tous ces Éphésiens grandissent, connaissent. Connaître Dieu dans la Bible, c'est être dans une relation personnelle avec lui. C'est vivre une certaine proximité, une certaine intimité. C'est possible quand Dieu se révèle par son esprit. Et nous qui sommes chrétiens, Paul le dit, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple. Il dit ça aux Corinthiens. Les Corinthiens, ils ont des problèmes. Au verset 18, il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez. Littéralement, dans l'original, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais nous, on a mis le cœur plus loin que l'intelligence. On a mis 25 cm en. Et dans la Bible, le cœur et l'intelligence, ça va ensemble. Nous, on a la connaissance de Dieu, mais ça ne touche pas en bas. Et là, Paul, il dit que Dieu, en fait, ouvre ses yeux, que vous alliez les voir, l'ophtalmo magique, celui chez qui il n'y a pas de ligne d'attente. Il n'y a pas de « Oh, bah écoutez, voyez voir, l'année prochaine. » Vous savez, l'illumination de l'intelligence, ce n'est pas un phénomène purement cérébral. Quand d'un seul coup, on se dit « Eureka, j'ai compris. » Mais c'est ce cheminement journalier avec notre Dieu, où Dieu dévoile, comme les pelures d'oignon, petit à petit, son plan. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte la puissance qu'on peut avoir de prier les uns pour les autres, de vouloir que chacun, chaque frère, chaque sœur, grandisse, se développe, trouve, partage. Paul veut absolument que ses lecteurs comprennent trois choses. Il veut d'abord qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance à laquelle Dieu les a appelés. Et il y a des frères et sœurs, des fois, qui me disent, qui peuvent penser, bon, l'espérance, il y a longtemps que j'en avais, mais elle était devant moi, mais je lui ai tourné le dos. Nous qui sommes appelés au salut, sommes-nous tirés vers l'avant, vers le haut, par notre espérance ? Occupe-t-elle nos pensées ? Il veut qu'ils comprennent quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'ils partagent. La glorieuse richesse. On a un Dieu riche. Avec ça, on fait plein de bêtises. Hein. Quand on parle de richesse, on parle surtout des richesses. Mais il y a plein d'autres richesses. Et on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour être riche. On est riche de cœur. On est riche d'esprit, on est riche d'espérance, on est riche de joie. On pourrait traduire quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu possède dans la personne des saints. Pensez à ça, je répète. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu possède dans la personne des saints? Et les saints, c'est qui? C'est pas Saint-Étienne, Saint-Émilion, c'est nous. C'est nous. Les saints, c'est nous. Nous qui avons revêtu la sainteté de Dieu et qui nous développons en sanctification. Ben, le glorieux héritage que Dieu possède dans chacun. Ça valorise, non ? Plutôt que de dire t'es nul, t'es bon à rien. Troisièmement, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en leur faveur. Dans Actes 8, il dit, vous aurez une puissance pour quoi faire ? Pour être mes témoins. Pour être mes témoins. Est-ce que c'est si simple d'être un témoin ? C'est pas juste connaître un texte par cœur. Mais c'est en fait l'expression que ce texte a sur moi et que j'offre aux autres. L'amour. Dans la prière que Jésus nous enseigne, il dit « Pardonnez-vous, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ce qui est bizarre, c'est juste la fin de la prière. Jésus il dit « Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. » Jésus, il enfonce le clou. Hein. On prie « Seigneur, pardonne-moi. » Enfin, mon voisin, lui, il n'a aucune raison d'être pardonné, lui. C'était intentionnel, je suis sûr, je le connais. C'est intéressant, non ? Nos prières. Le centre de la prière, c'est souvent nous. Mais ce n'est pas l'extraordinaire Dieu, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Donne à mes frères et sœurs cet amour qui vient de toi. Non pas l'amour du monde. La Bible dit, si vous saluez simplement ceux qui vous aiment, vous faites comme les païens. Est-ce qu'on va aller saluer ceux qu'on n'aime pas? Il y a une pub à la télé, hein, vous n'avez pas vu, là, le gars, il se promène en voiture, puis il rentre dans un village, et il dit, oh, bah, celui-là, il s'appelle machin, celui-là, il s'appelle truc, et celui qui est à côté, il dit, bah, vous êtes tous cousins, ici. Et puis quand il passe devant le pompiste, il dit, celui-là, je ne le connais pas. Mais nous, est-ce qu'on connaît nos frères et sœurs? Est-ce qu'on s'inquiète de savoir même où ils habitent, qu'est-ce qu'ils sont? Si je veux dire merci pour mes frères et sœurs qui sont autour de moi, ça veut dire qu'intentionnellement, je veux les connaître. J'aimerais qu'ils grandissent, mais j'aimerais les connaître. Nous savons, nous comprenons que Dieu est puissant, mais est-ce que nous comprenons qu'il est puissant pour nous? Pas seulement pour les autres, mais pour moi. L'immense puissance de Dieu peut faire encore bien davantage dans ma vie, et souvent je l'oublie. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi dans la vie des autres et révèle-toi ma vie. Non pas pour que je sois puissant, mais pour que tu sois puissant. Pour me changer. Pour changer mon caractère. Pour changer mes habitudes. Plutôt que de décliner tout ce que la puissance de Dieu peut encore faire pour nous, Paul choisit de décrire que cette puissance a déjà fait. Cela devrait nous encourager, n'est-ce pas? Quand on regarde derrière, ça, à un certain âge, il y a plus de trajets derrière que devant. Hein. On commence à dire, oula, la route est longue derrière. Et on ne sait pas ce qu'il y a devant. Et là, pour commencer à regarder, mais ça, c'était avant, hein, comme il dit à Flelou. Quand on regarde les photos, je ne sais pas si vous faites des séances photos. C'était toi ça, un barouilleux? Oh, t'avais des cheveux? Ouais, je les ai perdus à un moment. Non, on pense à avant. Et puis, dans nos situations d'église, on pense à avant. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce que Dieu nous a gardés jusque-là? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous transformer, pour transformer les autres? Qu'est-ce que Dieu a dû faire pour qu'il y ait une église à Vigneux-sur-Seine? Qu'est-ce que Dieu a dû faire pour que je vienne au rassemblement de cette église? Qu'est-ce que Dieu a dû faire pour me sortir du 93 bis avenue Jean Moulin à Mosa, 63-200, la plus belle ville de France? Du monde, d'Europe, j'allais dire. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû venir à ma rencontre. Et tout ça parce que des gens se sont mis à prier. Oh, ce gars-là qui est pilier de comptoir, arrête, touche-le. Et puis on a passé le nom, hein, on se passe les noms. Mais si on commence à le faire avec nos frères et sœurs, vous imaginez ce qui va se passer dans nos vies? Ce qui va se passer dans leur vie? Parce que Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu qui peut changer leurs habitudes, changer leur caractère, changer leurs compétences, leur donner de nouveaux dons. Et avec les versets 20-23, ce qui est intéressant, c'est que Paul a commencé par être reconnaissant. Il a intercédé. Et puis dans les versets 20-23, alors là, il va terminer dans la louange. Cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force, dit-il, en la faisant agir en Christ. Et dans Éphésiens, on trouve souvent cette expression, hein, en Christ, par Christ. Lorsqu'il l'a ressuscité, il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est passé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-delà de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Là, mes amis, il est en train de parler à des Éphésiens, et il sait de quoi il parle, Paul. Parce que les Éphésiens, dans leur ville, il y a une des sept merveilles du monde. Le temple de la déesse Diane. Et là, ça draine plein de gens qui vont voir cette déesse, qui vont parler à cette déesse qui est morte, en fait. qu'est-ce qui attire les dizaines et les dizaines de milliers de gens? Qu'est-ce qui attire des gens à Lourdes? Qu'est-ce qui attire des gens à Lisieux? Qu'est-ce qui attire des gens à Dassat, à Cotonou, le centre du diable là-bas, hein? La Mecque en Arabie Saoudite, Rome en Italie, Niamey au Niger, Ouagadougou au Burkina Faso. Il y a des centres qui attirent plein de gens là. Mais on va y voir un Dieu mort. On va y voir un Dieu mort. Est-ce qu'il y a une procession devant la tombe de Jésus? On ne sait même pas où aller. D'abord, il n'est pas dedans. Ça ne sert à rien. Paul, il s'est touché. Et dans notre pays de France, dans vos pays d'où vous venez, toutes ces choses qui attirent, elles attirent pourquoi? Pour la perdition, n'est-ce pas? Et là, Paul, il touche les mots, il dit, Jésus, il est au-dessus de tout ça. Il a toute autorité là-dessus. Vos dieux morts, ils n'ont plus d'influence. Ce que Paul affirme, c'est que la puissance de Dieu qui agit en nous, cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qu'il a fait siéger à la droite de Dieu, elle est pour nous. Elle est à notre disposition. Wow. Et elle va agir dans la vie des autres. Vous en êtes convaincus? Vous croyez simplement que, voilà, Dieu va réparer un pied, une main? Il peut faire plus que ça. Dieu n'est pas limité à ces choses-là. Mais il peut nous transformer pour transformer un pays. Il peut nous transformer pour transformer une ville. On oublie ça, n'est-ce pas? C'est un domaine de notre prière qu'on passe de côté parce que c'est important de prier pour les besoins. Oui, mais c'est important. Un des plus grands besoins que chacun d'entre nous, nous avons, c'est de grandir en Christ. C'est de comprendre quel est le mystère caché et qui est révélé pour ses enfants. La mission de Jésus est terminée et réussie. Elle annonce que le Messie siégera à la droite de Dieu. C'est le psaume 110 qui le dit. Dans le monde céleste, Christ règne avec Dieu sur tout l'univers. Wow. Il y a des puissances hostiles, n'est-ce pas? On en a plein autour de nous. Dieu a tout placé sous ses pieds. Verset 22. C'est un accomplissement, n'est-ce pas? À la fin de la louange, Dieu a donné Christ pour chef, pour tête, à l'Église qui est son corps. Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Voilà une métaphore extraordinaire, non? Est-ce qu'on peut être détaché de notre tête? N'essayez pas, hein? Il va se passer un problème si vous enlevez votre tête. Et c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un a perdu la tête, c'est qu'il y a un problème avec le corps après, hein? Il n'a plus tous ses sens. Mes amis, si on est rattaché à la tête, alors si nous sommes son corps. 1 Corinthiens 12 dit, est-ce que je peux dire à l'autre membre, tu ne sers à rien? Si votre pied s'arrête de marcher, vous pouvez lui dire, c'est pas grave, ça ne gêne pas, je vais quand même avancer. Il va se passer un truc. Et on dit ça à nos frères, et sur toi, tu ne sers à rien. Vous savez qu'on dit dans une librairie, dans une bibliothèque, que ceux qui sont tout à fait en haut, c'est ceux qui servent le moins. On dit que ce sont ceux qui sont tout en bas qui ne servent à rien. Mais Dieu, il se sert de chaque membre, chaque morceau du corps, pour faire avancer son Église. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui change. Et pour ça, il nous a laissé ce merveilleux espace qu'est là, qui est la prière. En lui habite toute la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Il n'est pas marqué quelques-uns. Il est marqué tout en tous. Vous vous rendez compte, mes amis, la puissance que Dieu nous donne de prier ensemble, de prier les uns pour les autres, d'être soucieux de l'autre. Oui, on va prier les uns pour les autres, et j'espère qu'on le fait. Mais que nos temps de prière soient rendus utiles dans ce sens-là, qu'on puisse avoir des actes, des moments de reconnaissance, des moments d'intercession et des moments de louange, parce que Dieu a déjà fait les choses qu'il nous promet. La vérité centrale de notre texte, prions davantage. Prions davantage pour mieux connaître Dieu et pour mieux comprendre ce qu'il met à ma disposition, à votre disposition. commençons, c'est vrai, par prier pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres chrétiens. Apprenez à les connaître. Si Dieu s'est donné tout ce mal pour que mon frère ou ma sœur soit là, est-ce que j'ai le droit de négliger le frère ou la sœur? De ne pas y porter intérêt? Nos proches, nos amis, nos familles. J'ai marqué ici, puisque nous avons moins de temps à consacrer à la prière, faisons en sorte que le temps compte, que nos prières soient remplies de ce désir que l'autre avance. Ensuite, n'oublions pas de prier pour ses besoins. Et le plus grand besoin, c'est que nous grandissions, n'est-ce pas? C'est que nous connaissions mieux Dieu pour mieux le servir, pour mieux le faire connaître. Quelqu'un a écrit cette prière, il a dit: Père Céleste, merci pour la foi et l'amour que tu as donné aux chrétiens de mon église. On peut prier ça? Honnêtement? Merci Père Céleste pour la foi et l'amour que tu as donné aux chrétiens de mon église. Par l'Esprit, donne-nous sagesse et révélation pour mieux te connaître. Illumine notre intelligence pour que nous comprenions l'objet de notre espérance, le fait que nous sommes comme un héritage précieux à tes yeux et l'extraordinaire grandeur de ta puissance que tu mets en œuvre en notre faveur. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta puissance que tu as déployée en ressuscitant Christ, en le faisant siéger à ta droite. Loué sois-tu pour la victoire en Christ. Mes amis, il y a un domaine que nous avons besoin d'explorer ensemble, le domaine de la prière. Le domaine où nous demandons à Dieu la grâce de voir les autres grandir. La grâce de voir que les uns et les autres apprennent à mieux connaître Christ. Et c'est pour ça que Dieu, dans son plan magique, dans son plan merveilleux, l'Église a donné les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Mais ensemble, nous sommes communiqués à Dieu. Nous sommes en communication avec notre Dieu, connectés à lui, pour que toutes ces bénédictions que Dieu en réserve viennent sur chacun d'entre nous. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cet exemple de prière. Tu as inspiré Paul, Seigneur, dans sa prison, à prier pour ces Éphésiens qu'il ne voyait pas, mais en adressant pour chacun d'abord cette prière de reconnaissance, cette prière d'intercession et cette louange. Et Seigneur, ce matin, tu as mis sur mon cœur de nous encourager les uns les autres. Parce que nous sommes ton corps et tu es notre tête, ça nous a été rappelé. Parce que c'est toi qui décides, parce que c'est toi qui conduis, parce que c'est toi qui dirige, parce que c'est uniquement toi qui nous donne la vie, c'est uniquement toi qui peux nous changer. Alors Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous qui sommes réunis ce matin, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, afin que tu nous donnes d'avoir cette prière. Père Céleste, merci pour la foi et l'amour que tu as donné aux chrétiens de mon Église. Apprends-moi à connaître mieux les chrétiens de l'Église. Apprends-moi à mieux connaître les frères et sœurs de l'Église. Apprends-nous à mieux nous connaître. Afin qu'ensemble, dans cet acte merveilleux que tu nous as donné d'être témoins, eh bien le monde puisse te voir. Donne-nous, Père Céleste, la sagesse, la révélation pour mieux te connaître. Illumine, Père Céleste, notre intelligence pour que nous comprenions l'objet de notre espérance. Merci de faire de nous un héritage précieux à tes yeux. Et merci pour l'extraordinaire grandeur de ta puissance que tu révèles en nous. Puisses-tu, Seigneur, touchez la vie de chacun. que nous puissions te voir à l'œuvre. Alors, Seigneur, comme tu le dis aux disciples dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus.